les podcasts de Radio Vatican.
Pour tourner la page d'une décennie de présidence de Rafael Correa, les Équatoriens sont appelés dimanche 19 février à une élection présidentielle qui voit s'affronter 8 candidats et dont les résultats sont tout à fait incertains. Lénine Moreno, qui brigue son premier mandat, est le favori de ce scrutin. Issu du parti au pouvoir, Alianza País, il n'est cependant pas certain d'être élu dès le premier tour et le scénario du second tour pourrait ne pas lui être favorable face à une possible coalition des candidats conservateurs et populistes. Lénine Moreno n'est pas certain non plus de pouvoir capitaliser le bilan objectivement positif du président sortant, car parmi les 12,8 millions d'électeurs appelés aux urnes, nombreux sont ceux qui dénoncent la mainmise de Rafael Correa sur la gestion politique et économique de l'Équateur au cours de ces 10 années de présidence. Dans ce contexte, les Équatoriens risquent de voir leur pays renouer avec l'instabilité politique, l'absence de majorité nette et des coalitions fluctuantes. Éclairage sur les scénarios possibles de l'après-Coréa avec Pablo Cardozo, enseignant et chercheur équatorien à l'université Paris 1, Sorbonne.
Le bilan de Rafael Correa peut s'analyser sous divers angles. Certainement un côté économique qui est remarquable, des indicateurs macroéconomiques qui montrent une croissance pendant ces 10 années. Évidemment, cette croissance a été donnée par le prix haut des matières premières, notamment le pétrole, mais aussi un bilan des politiques publiques qui est remarquable dans l'aspect social, des indicateurs de pauvreté qui ont descendu, des indicateurs d'inégalité qui se sont réduits, une dépense sociale assez marquée dans les secteurs de l'éducation et la santé, et une dépense d'infrastructure aussi très importante. Donc, de ce point de vue, on a eu une certaine stabilité qui explique à son tour la stabilité politique qui a bénéficié le gouvernement coréen. Et là, par contre, le bilan peut être assez mitigé, notamment avec beaucoup de critiques sur la main dure qui a été portée aux opposants politiques, à la liberté d'expression et à d'autres questions de société qui sont plus mitigées dans ce bilan.
Alors, l'opposition qui aujourd'hui a fait campagne contre le candidat du parti au pouvoir dénonce aussi le chômage et la corruption.
Le chômage, c'est un indicateur qui s'est dégradé, surtout dans les 2 dernières années, depuis l'année 2014 avec la chute du prix du pétrole, et l'Équateur restant un pays très dépendant, on peut bien expliquer cette chute dans les indicateurs de chômage à cause de cette donnée macroéconomique de changement de cycle économique mondial. D'un autre côté, évidemment, le problème de la corruption a été un problème structurel du pays. Il y a un problème de corruption qui se pose sur le gouvernement actuel avec des soupçons importants qu'il faudrait évidemment clarifier. Et il faut savoir que le problème de corruption n'est pas un problème exclusif ni à l'Équateur, dans le contexte de l'Amérique latine, ni à ce gouvernement.
Alors, on a parlé de stabilité. Ça va être un des problèmes, en fait, pour le prochain gouvernement, car apparemment, la question qui se pose, ça va être maintenant celle de la gouvernabilité. Il y a 8 candidats à cette élection présidentielle, et Lénine Moreno, qui est le candidat du parti au pouvoir, hein, Alianza País, n'a pas le charisme de Rafael Correa. Il est certes doté d'une bonne avance dans les sondages, mais sur les 8 candidats, on va de toute façon probablement être amené à une coalition. Qui peut s'allier avec qui?
Le scénario peut varier si la victoire de Moreno se produit en premier tour. Sous le scénario du deuxième tour, évidemment, il y aura une coalition des forces, surtout qui représente la voie de la centre-droite, représentée par le candidat Lasso et le candidat Viteri, qui essaierait de faire basculer l'élection de son côté. Et on aura un nouveau scénario dans la politique équatorienne qui sera le scénario de la négociation dans le Parlement. On va retourner à un rôle primordial des négociations des coalitions dans le Parlement dans les prochains 4 années. Ce scénario a été abandonné sous la présidence Correa. On a eu évidemment une majorité absolue de ce caudillo politique qui est Rafael Correa, qui pendant 10 années à renier sur les scènes politiques équatoriennes.
Quelle est par contre maintenant l'attente des Équatoriens. Que souhaitent-ils? Quels sont les problèmes auxquels ils sont aujourd'hui confrontés et que la classe politique devrait résoudre?
Je peux simplifier les attentes des Équatoriens dans deux vagues. En disant même que les deux vagues souhaitent évidemment, après 10 années de gouvernement de main forte de Rafael Correa, un changement. Mais le problème se pose dans quelles sont les attentes de ce changement. D'un côté, il y a évidemment les gens qui se sont bénéficiés pendant ces 10 années des politiques sociales et qui apprécient beaucoup le bilan du président Correa. Néanmoins, ils estiment que c'est nécessaire un changement dans la façon de conduire les fils politiques de l'Équateur vers un modèle qui essaye de rétablir les consensus sociaux et qui baisse un peu le ton de la main forte du discours de Correa. D'un autre côté, on a ce qu'on peut simplifier sous le nom des dégagistes, qui veulent changer à nouveau tout le modèle de politique publique et qui proposent effacer tout ce qui a été fait et commencer à nouveau sous l'égide surtout du libéralisme économique. Donc je peux simplifier dans ces deux vagues les attentes des Équatoriens dans les prochaines 4 années.